Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot du mardi sur tendanceouest.com et sur tous les supports digitaux de Tendance Ouest. C'est le club foot, vous le savez, avec tour à tour le HAC, le Stade Malherbe de Caen, mais aussi tout le foot régional. Et il y a de quoi dire, encore une fois cette semaine avec, il fait son retour dans l'équipe, c'est un des tenanciers de ce club foot, Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu.
Salut Sylvain, salut à tous.
Un autre qui fait son apparition avec nous, et il est de FFF TV. Bonjour Aurélien Renaud.
Salut tout le monde.
Et sa première en notre compagnie. Oui, vous ne l'avez jamais vu. Oui, vous ne l'avez jamais entendu sur les ondes de Tendance Ouest. C'est Florent Turpin de France 3 qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Florent.
Salut Sylvain, ravi de vous retrouver.
Alors messieurs, immédiatement plongeons dans ce week-end foot de Ligue 2. Et tiens, commençons par le HAC. Une fois n'est pas coutume, parce que ça s'est bien passé pour les Havrais du côté de Guingamp. Victoire 3 buts à 1 des hommes de Paul Le Guen. Mathieu Billot, je commence avec vous. Vous étiez à la conférence de presse juste avant ce match des Havrais face à Guingamp. Paul Le Guen avait fait preuve de sérieux, comme à son habitude, extrêmement posé. Ça s'est très bien passé pour les Havrais finalement.
Alors, le résultat s'est très bien passé. Après, on peut dire que le score est un poil flatteur pour le HAC. Car dans le contenu, Guingamp a fait plus que rivaliser, s'est créé beaucoup d'opportunités. C'est efficace, contrairement au HAC, qui s'est montré chirurgical, et par contre qui a exploité des largesses défensives du côté de Guingamp un petit peu effrayantes, mais ça, ce n'est pas leur problème, c'est le problème des adversaires. Donc, c'est un bon score, c'est une bonne performance de s'imposer à Guingamp. Après, dans le contenu, d'ailleurs, Paul Le Guen l'a dit, il a trouvé que c'était le moins bon match des trois premières journées de son équipe. Donc, ça situe à peu près... L'exigence, c'est peut-être aussi la prestation qu'ont fait les Havrais samedi.
Alors, une exigence de qualité, une exigence de résultat aussi, parce que force est de constater finalement que les Havrais, malgré des débuts assez compliqués en termes de mercato, et on va y revenir, sont en train de trouver une équipe finalement. Aurélien Renaud, vous en pensez quoi, vous ?
Ouais, ils sont en train de trouver une équipe. Je rejoins assez Paul Le Guen. J'avais regardé le match vraiment attentivement contre 3. Bon, ils avaient forcément gâché un titre. Une logique, une sévère. Sur le match de Guingamp, il y a de la réussite. Il y a aussi un adversaire, Guingamp, qui est complètement illisible en ce début de saison. C'est pas du tout où ça va, que ce soit en coulisses ou sur le terrain. Après, l'équipe du Havre, le mercato est forcément en question, hein, comme pour toutes les équipes. Quand je vois malgré tout les départs importants qu'il y a eu, quand bien même des joueurs comme Cornette, comme Gibault, ce sont des joueurs intéressants pour une équipe comme le Havre, je préfère encore attendre quelques matchs parce qu'on sait trop à quel point cette formation peut être imprévisible et malheureusement souvent dans le mauvais sens ces dernières saisons.
Mathieu Billot, c'est une victoire qui peut être fondatrice pour le HAC, d'après vous, à Guingamp, ou pour le début de cette saison.
Fondatrice, je ne sais pas, c'est qu'à troisième journée, ça me paraît prématuré de dire ça.
Il faut aller gagner à Guingamp quand même.
Il faut gagner à Guingamp. Guingamp, c'est un nom aujourd'hui. Est-ce que Guingamp, alors même si Paul Le Guen dit que l'équipe de Guingamp finira dans le top 5 de la Ligue 2 à la fin de la saison, moi personnellement, j'en sais rien. Aurélien y a fait référence. Il y a pas mal de soubresauts à Guingamp, notamment en coulisses. Bon, il faut faire attention parce que l'année dernière, le HAC avait fait un très très bon début de saison, avait fait des performances significatives à 3, à Lens. On avait eu tendance un petit peu à s'enflammer. Derrière, on a vu qu'il y a un coup de mou. C'est très très long. On ne peut pas dire que la troisième journée, cette victoire est fondatrice. On ne sait pas quel visage aura l'équipe le 6 octobre, le lendemain de la clôture du mercato. Je crois qu'il faut juste prendre la victoire, c'est bien. Et puis, il faut voir s'ils sont en capacité d'être confirmés face à une équipe qui réalise un bon début de saison, mais qui n'est pas un nom de la Ligue 2. Et souvent, c'est contre ces équipes-là que le HAC perd des points en route, notamment à domicile. C'est là qu'on va voir peut-être la capacité de progression de cette équipe dès samedi prochain.
Bon, un mot sur Jamal Thiaré, ses premiers buts importants dans cette saison à l'ancien joueur d'Avranches, Aurélien Renaud. En l'absence de Tino Kadewere, et pour cause, parti du côté de l'Olympique Lyonnais, en l'absence, et on va y venir dans quelques instants, de joueurs en renfort réel sur la phase offensive, Jamal Thiaré, c'est la cartouche essentielle du HAC.
Ouais, mais plus que la cartouche essentielle, pardon, c'est un joueur que je trouve vraiment efficace, que très bon la saison dernière, un petit peu effacé par Kadewere évidemment. Là, c'est vrai que sur les dernières prestations, et surtout celle à Guingamp, on voit qu'il a pris un petit peu la lumière. Je pense qu'il est capable de porter l'attaque à Brest, c'est un joueur de qualité, mais je pense que vous avez déjà donné plus ou moins la réponse dans la question. Je pense qu'il va quand même falloir, côté Havre, enclencher la seconde dans le même. mercato, parce que devant, il me semble que c'était Abdelli qui l'accompagnait au début de match sur le front de l'attaque. Ça ne sera pas suffisant, à mon sens, si vraiment les Havrais veulent avoir des grandes ambitions et à terme peut-être se mêler à la montée.
Bon, le mercato, messieurs, vous l'avez dit il y a quelques instants, Mathieu Billot du Foot Normand, il se terminera le 5 octobre au soir. Du côté du HAC, pourquoi ça ne démarre pas? On en parlait la semaine dernière, des difficultés des Havrais à recruter. Rien n'a bougé en une semaine. Ça commence à être urgent, non, Mathieu, maintenant?
Bah, urgent, je ne sais pas, ils ont gagné 3-1 ce week-end, donc tout dépend de l'urgence.
Ah, il faut des renforts, ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Paul Le Guen compris, d'ailleurs.
Oui, non, mais après, c'est toujours pareil avec Paul Le Guen. Paul Le Guen, il a des joueurs précis en tête. Il veut des joueurs qui apportent une plus-value à son équipe. Voilà, là, donc il y avait Karim El Barkaoui, l'attaquant marocain d'Agadir, qui est ciblé. Il a failli y arriver la semaine dernière, ce n'est pas fait. Donc voilà, il faut prendre des gens, des joueurs qui sont en capacité de bonifier ce collectif, pas seulement prendre des mecs pour être sur le banc ou pour faire 20e. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, encore une fois, il faut attendre. Faut voir la fin du mercato. En plus, ils ont quand même déjà pris 4 joueurs depuis le début du mercato. Quand même, ils sont pas à zéro. Hein, ils n'ont pas rien fait. Potentiellement 4 titulaires. Ce n'est pas rien non plus dans une équipe. Donc à voir. Je pense qu'ils attendent 2 recrues encore avec l'attaquant et polyvalent plutôt derrière. C'est plutôt dans le sens des départs qu'il faudrait voir si est-ce qu'ils vont encore perdre des joueurs avec Victor Lekal et Umut Meras, qui sont les deux principales cibles. S'ils gardent ces deux garçons et qu'ils font ce qu'ils veulent au niveau arrivé. Équipe intéressante qui va candidater au top 5. Sans
alors, un mot avec vous, Aurélien Renaud de FFF TV, sur, peut-être pas sur le cas Victor Lekal, on y reviendra, mais sur le cas d'Umut Meras. C'est un joueur qui forcément intéresse des clubs et pas en Ligue 2.
Non, c'est un joueur qui pourrait aller effectivement plus haut, mais c'est vrai que je pense qu'au regard des joueurs qui ont déjà été perdus par le Havre, il y en a quand même beaucoup, il y a Badé, il y a Gay, il y a Ebimbe aussi qu'on retrouve à Dijon cette saison. Je pense que le Havre aurait tout intérêt à le garder. J'ai quand même l'impression que si le Havre veut garder des ambitions, il va falloir resserrer les boulons dans le sens des départs, parce que cette équipe a déjà changé. Et quand on voit que la saison dernière, déjà avec ces noms-là, les noms que je viens de citer, ça a été un petit peu en dents de scie et que ça n'a pas tenu après un très très bon début de saison. Parce qu'on le rappelle, le Havre était leader à la fin du mois d'août. À un moment donné, il va quand même pas falloir se laisser partir trop de joueurs sur lesquels Paul Le Guen veut certainement compter, sur lesquels il faut clairement compter.
Alors Mathieu Billot du Foot Normand, vous y êtes souvent du côté de Saint-Laurent ou du côté du Stade Océane. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi le ressenti en ce moment? Est-ce qu'on est un peu dans l'attente, comme nous tous en tant qu'observateurs, du côté des supporters ou des suiveurs du HAC?
Non mais les supporters, j'imagine qu'ils attendent des recrues. Je ne connais pas un supporter de n'importe quel club qui n'attend pas une recrue en période de mercato. Ça, c'est bien logique et c'est bien normal. Recruter, ça ne fait pas tout. C'est, encore une fois, il faut que ça s'inscrive dans un collectif, il faut que ça apporte une plus-value. Je pense que le HAC de cette saison sera totalement différent dans le style de jeu de la saison dernière. Paul Le Guen l'a évoqué à plusieurs reprises. Voilà, au Havre, ils prennent leur temps. Ils sont pas dans le besoin. Ils ont 6 points en 9 matchs. Je pense qu'ils sont plutôt bien. Il leur faudra certainement des renforts pour avoir des ambitions sur toute la saison. Mais voilà, il y a pas, honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'urgence sur ce qu'on voit. Il y a déjà un bon petit groupe. Il y a déjà un groupe d'une vingtaine de joueurs qui tient pour la Ligue 2 plus que le parquet.
C'est suffisant, Aurélien Renaud, ce groupe que vient de mentionner Mathieu Billot, 20-22 joueurs pour la Ligue 2.
Ça dépend des péripéties qu'on peut avoir dans une saison. Après, on est dans une saison particulière avec des changements qui sont redoublés, donc on peut concerner beaucoup plus de joueurs. Donc à ce niveau-là, 20-22 joueurs, ça reste pas mal pour moi. Le problème, c'est ce que j'évoquais avant, c'est que quand on a perdu des Kadewere, des Bimbe et autres joueurs d'importance, il ne va pas falloir voir ce groupe se réduire davantage et il ne va pas falloir perdre de trop, trop gros noms. Alors même si à Guingamp, il y a eu cette victoire qui est quand même peut-être pas fondée, mais encourageante. On ne sait que trop bien que cette équipe du Havre, parfois, a tendance à malheureusement déjouer très rapidement.
Ah, pour ne pas déjouer, justement, il va falloir recevoir Niort, il va falloir gagner contre Niort. Match à suivre, on vous le rappelle, en fil rouge sur tendanceouest.com et en direct, en même temps que la rencontre de Caen. Ce sera samedi soir à partir de 19h. Et vous y serez, Mathieu Billot, si je ne m'abuse, du côté du stade Océane pour suivre ce Le Havre-Niort. Il va ressembler à quoi ce match-là, selon vous?
C'est une bonne question. Merci de me la poser.
Non, de rien, c'était cadeau.
C'est offert. Non, Niort, c'est une équipe un peu surprenante en début de saison parce qu'elle est tout en haut. Elle est tout en haut du classement. Alors qu'elle est plutôt. Avant le début du championnat, on la voyait plutôt tout en bas. Avec beaucoup de départs, un changement d'entraîneur, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément à sa tête. Voilà, avec des soubresauts aussi en coulisses. Hein. Il y a eu un changement d'actionnariat, de président. Ils ont été sanctionnés la semaine dernière par rapport à des irrégularités, avec exclu de la Coupe de France, pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. Mais bon, visiblement, sur le terrain, ça ne les perturbe pas trop. Ils prennent les points, ils gagnent. Et comme c'est une équipe qui, elle, cherche avant tout à se maintenir, le fameux total de 42 points qu'on dit toujours, elle en a déjà engrangé 7. Et donc, elle viendra sans pression, en toute décontraction au stade Océane, avec l'ambition de faire un gros coup. Donc, attention, méfiance. Et encore une fois, c'est contre ce genre d'équipe que le HAC perd des points depuis…
Traditionnellement, depuis des années. Exactement, voilà. Exactement. Aurélien Renaud, ça va jouer sur quoi ce match entre Avray et Niorté, justement, on le disait. Ça va d'abord se jouer dans la tête pour effacer cette espèce de manie que les Avrais ont de se manquer assez souvent à Océane face à des, et je mets des guillemets évidemment, n'y voyez aucun manque de respect, face à des équipes plus petites.
Bah, ça va se jouer dans la tête. Déjà, Mathieu a bien résumé la chose. On est dans le cas où Niort est effectivement annoncé comme un petit du championnat, mais il faut quand même regarder le début de saison qui est quand même assez surprenant, assez prometteur, malgré les soubresauts en coulisses. Ça va jouer dans les têtes aussi, mais je pense qu'il y a une chose importante que les Havrais ont réussi déjà cette saison, après le faux départ à 3, c'est de battre Amiens chez eux. Parce que voilà, débloquer le compteur à domicile dès la première journée, ça peut vous mettre dans des prédispositions intéressantes. Et Amiens, c'est pas n'importe qui non plus. C'est une équipe qui descend de Ligue 1, qui a encore énormément d'éléments qui évoluaient à l'étage supérieur la saison dernière. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère, quand bien même elle vient aussi de s'incliner à nouveau contre le PFC ce week-end. Mais je pense que les Havrais, psychologiquement, après deux victoires, on le vend en poupe. Donc en fait, la balle, elle est clairement dans leur camp. À voir si les leçons des saisons précédentes ont été apprises.
Capitaliser, Mathieu Billot, ça va être le mot de Paul Le Guen pour ce match. Bonifier absolument la victoire à Guingamp.
Alors, je ne sais pas ce que va dire Paul Le Guen, mais ce qui est important pour le HAC, c'est domicile, c'est de prendre des points. C'est, jusqu'à fin octobre et justement la fin du mercato, je pense qu'on aura une première lecture, du classement et des forces en présence. C'est de prendre le maximum de points pour être dans le top 5, voire le premier tiers du classement. On a du mal à croire que ce sera le même championnat que l'année dernière. Là, on bien sûr fille d'interruption, mais avec une équipe comme Lorient qui a fait la course en tête pendant un long moment, après Lens qui s'est écroulé, sera peut-être beaucoup plus homogène. Pour le moment, les supposés gros ne sont pas toujours là, mais avec le temps, on peut estimer qu'ils vont revenir. Donc on voit un championnat beaucoup plus homogène, avec quelques surprises. Donc voilà, le Havre, il n'y a pas de question à se poser. Quand vous recevez Niort en Ligue 1, il faut gagner, et peu importe la manière, j'ai envie de dire.
Bon, petite nouveauté, messieurs, vous le savez, dans cette émission, chaque semaine où il y a match le week-end précédent, on désigne les tops et les flops du week-end pour le HAC. Et on va commencer, allez, avec vous, Mathieu Billot, on va commencer par le flop et on va terminer par le top. Votre flop, si vous en avez un, pour l'équipe havraise dans ce déplacement à Guingamp.
Alors, le flop, honnêtement, j'en ai pas, parce que ça serait quand même dur de leur mettre un flop, même si tout n'a pas été parfait dans le contenu, mais non, honnêtement, j'en ai pas. Par contre, des tops, j'en ai plusieurs, si vous voulez.
Ah, ben on va venir après, peut-être qu'Aurélien Renaud d'FFFTV en a un flop, lui.
Non, j'ai pas particulièrement de flop non plus. Au moment où vous posez la question avec Mathieu Répond, je dis, mais qu'est-ce qu'il va donner comme flop? Et puis il en donne pas. Donc je me range derrière lui.
Alors, ils vont être heureux, les supporters Havrais. Et c'est mérité parce qu'on le rappelle, il y a eu victoire au stade de Rodourou du HAC. 3-1 lors de la précédente journée. Alors, les tops, on commence avec vous, Mathieu Billot du foot normand. Le top, votre top de ce déplacement Havrais en terre bretonne.
Alors moi, je vais mettre Quentin Cornet, du coup, qui était titulaire pour la première fois, qui est impliqué dans les 3 buts et qui a fait une prestation de très bon niveau, notamment en première période. C'était un peu un joueur clé qui était recruté pour changer, pour modifier un petit peu l'animation offensive du HAC. Et là, sur ce qu'il a montré à Guingamp, c'est vrai que c'est très intéressant.
À vous, Aurélien Renaud d'FFFTV, un top en plus.
Alors, j'aurais dit Cornet aussi, mais je vais rajouter Victor Lécal parce que je trouve que le duo qui forme au milieu de terrain sur cette équipe du Havre, sur ce match de Guingamp, est intéressant. Et c'est vrai que ce duo-là, si le Havre pouvait le garder dans l'entrejeu, je sens qu'il y a une complémentarité qui est clairement possible entre les deux hommes, qui est prometteuse. Pardon. Et moi, je dirais l'association au milieu de terrain, même si évidemment, on ne peut pas occulter le match de Jamal Thiaré parce que en mettant ses deux buts, c'est lui qui fait pencher le match tout simplement parce qu'il met les deux buts que Guingamp ne sait pas mettre dans cette partie.
Allez, rendez-vous pour les Havrais, donc vous l'avez compris, face à Niort, match à suivre, on vous le rappelle, en fil rouge et en duplex, en même temps que la rencontre entre Caen et Chambly, ce sera samedi à partir de 19h sur tendanceouest.com et toutes les applis Tendance Ouest. On passe à notre deuxième équipe en Normandie, professionnelle et en Ligue 2, qui elle aussi l'a emporté à l'extérieur, c'était samedi soir à Rodez, 3-0, je veux bien sûr parler du Stade Malherbe de Caen, messieurs. Alors, c'est un départ canon de Malherbe. Et là, je me tourne. Allez, facile. On va lui mettre la bonne passe en profondeur comme il faut pour sa première intervention dans notre émission. Florent Turpin, ces Canets, ils vous font plaisir dans ce début de saison ?
En tout cas, ils sont sur une excellente dynamique, ça c'est clair. Et tout ce qui se passe autour du club, ça contribue à cette excellente dynamique. Et ils font le début de saison que les gros auraient aimé faire. On pense à Toulouse, on pense à Guingamp et ils n'en sont pas là. Donc voilà, Caen réalise un bon début de saison et tout ce qui est engrangé encourage et contribue à cette bonne dynamique. Et ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire.
Ça va dans le bon sens, Mathieu Billot. Ce que l'on voit du côté du Stade Malherbe, n'ont pas perdu, les Canets n'ont pas encaissé de but et les Canets se sont imposés 3-0 à Rodez et grimpent sur le podium de cette Ligue 2 avec 7 points en 3 matchs. Vous en pensez quoi, vous, de ce départ, Mathieu ?
Eh bien, en termes de points, c'est quasi parfait. Mais au-delà de ça, c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il se dégage de l'équipe. C'est un football, on va dire plutôt vertical hein, que de possession, mais c'est assez efficace. Voilà, ils sont solides et je trouve qu'il y a les joueurs courent pour les uns pour les autres. J'ai envie de dire, ils font les efforts, ils sont solides. Je trouve ça vraiment très intéressant. S'ils gardent cet état d'esprit là. Ici, ils sont épargnés, on va dire, par les pépins de blessures ou de suspensions. Ça peut être intéressant.
Aurélien Renaud d'FFFTV, les Canets, vous les avez commentés en ma compagnie lors du premier match à domicile face à Ajaccio. Nous les commenterons à nouveau ensemble face à Chambly samedi soir. Ils vous inspirent quoi, ces Canets ? Alors, on note le bon départ mentionné évidemment dans les résultats par Florent Turpin, le bon départ dans l'état d'esprit mentionné par Mathieu Billot. C'est quoi que vous retenez en premier, vous ?
Moi, ce que je retiens, et je l'ai souvent dit au micro en votre compagnie lors du match contre Ajaccio, c'est vraiment la solidité défensive retrouvée, la sérénité qui se dégage du duo de centraux déjà, Weber et Rivierez, que j'ai trouvé vraiment très très bon, très complémentaire. On sent qu'il y a du travail qui a été fait entre les deux depuis une grosse saison. C'est pas anodin de commencer une saison avec trois matchs sans encaisser de but. Pardon, la saison dernière, alors on sait que Chambly avait battu le record, ils étaient restés sans but encaissé pendant 6 journées, c'est le record absolu. Mais une équipe comme Chambly, de l'autre côté du terrain, n'avait pas la capacité offensive pour perdurer, pour faire quelque chose de grand. Et il y a une stat qui était intéressante que j'ai relevée sur le site de la LFP, justement, sur ce que font les meilleures défenses après 3 journées dans le championnat. À l'exception du Havre en 2011-2012, on est forcément dans le top 8. Et en règle générale, on est premier, quatrième ou septième comme Valenciennes la saison dernière. C'est pas inintéressant ce que les Canets démontrent défensivement et avoir les bases défensives, c'est quand même prometteur pour une belle saison.
Florent Turpin, vous en avez vécu plusieurs de saisons au Stade Malherbe de Caen pour France 3 Normandie. Elle vous inspire quoi cette entame ? Vous sentez que cette solidité, ça peut déboucher sur quelque chose de vraiment bien ou est-ce qu'il est encore beaucoup trop tôt pour le dire ?
Je pense qu'il est trop tôt, mais je pense qu'il y a un truc qui est en train de se créer autour du club. Les suiveurs le disent, le mercato n'est pas fini, mais il y a un état d'esprit, Mathieu vient de le dire. Il y a un état d'esprit qui fait que cette année, Caen peut pourquoi pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire peut-être nourrir des ambitions auxquelles il ne pensait même pas l'année dernière. Le nouvel actionnariat du Stade Malherbe, ce nouvel état d'esprit, des jeunes qui émergent, moi je les sens plutôt bien cette année.
Avec une première révélation, ai-je envie de dire, Mathieu Billot du foot normand, Kélian Nsonna, ça commence à être sérieux, cette histoire.
Ouais, alors on va éviter de tomber dans le piège.
C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de précautions. Ça commence à être sérieux, dirons-nous.
Pas parce que je trouve pas que le joueur est bon. Hein, je trouve qu'au contraire.
Non, mais on en a vu plein des étoiles filantes comme ça.
C'est moi le premier, des fois, après deux matchs, à les enflammer. Je pense pas que c'est toujours bon pour eux. Et c'est vrai que ce qu'ils montrent sur la prépa, parce qu'il y a aussi la prépa, hein, c'est vrai.
Qu'il a montré, il y a 6 matchs de prépa, 3 matchs de championnat quand même.
Surtout, on a l'impression qu'il est capable de répéter les efforts à haute intensité, à haut niveau. C'est vraiment intéressant. Bon, il a les qualités du footballeur moderne hein, devant. Il va vite, il percute, il fait mal à son défenseur. Il joue pour l'équipe. Franchement, oui, c'est sur les 3 premières journées, c'est intéressant. Là, forcément, on avait commencé à le voir un peu en fin de saison dernière, au mois de mars. Quand on l'a retrouvé 6 mois plus tard, c'est aussi un garçon qui a 18-19 ans, hein, qui physiquement avait changé, forcément. C'est à cet âge-là qu'on s'épaissit un petit peu. C'est un temps. Maintenant, il faut faire attention, forcément. Il ne faut pas les enflammer, il ne faut pas les brûler. Mais c'est vraiment typiquement, pour l'instant, c'est vrai que c'est une belle trouvaille. Et c'est vrai qu'il faut lire. C'est Pascal Duprat qui l'a lancé, comme de nombreux jeunes, qui lui a fait confiance. Et avec les jeunes, Pascal Duprat, il a un petit quelque chose, il a un petit feeling. Il arrive à les lancer, il les installe.
Autre jeune, et là je me tourne vers vous, Aurélien Renaud d'FFF TV, Nicolas Gioacchini qui a retrouvé le chemin défilé. C'est lui qui a inscrit le premier but sur ce très beau centre fuyant d'Anthony Gonzalez samedi soir à Rodez dès la 2e minute. Il va lui faire du bien ce but.
Ouais, ça va lui faire beaucoup de bien à Nico, forcément. C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif, beaucoup à la confiance. L'année dernière, ça fonctionnait plutôt bien parce que très rapidement, il s'est senti mis dans de bonnes dispositions par le coach Duprat. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. C'est important pour un joueur comme lui de ne pas s'enfermer dans une spirale de manque de réussite, comme ça a pu être le cas sur les 2 premières sorties. Après, tout dépend à Nicolas Gioacchini, selon moi, de son positionnement. Et lorsqu'il est trop excentré, je pense qu'il perd énormément en qualité et en influence. Là, on voit justement sur ce but très vite à Rodez. Et c'est vrai qu'il ôte une énorme épine du pied du Stade Malherbe dans ce début de match, parce que marquer très vite à l'extérieur, c'est quand même un gros luxe. On voit justement que c'est un joueur de surface, qu'il a toujours la capacité à bien lire les actions, à bien sentir où le ballon va arriver, à bien se positionner. Et on veut le voir, enfin moi en tout cas, mais je pense que je ne suis pas le seul, on veut le voir dans la surface, Nicolas, on veut le voir à la réception des actions.
Alors l'arrivée de Johan Cour va probablement, et là je me tourne vers vous Mathieu Billot, vous y étiez à l'entraînement hier, l'arrivée de Johan Cour à plus long terme va probablement, pourquoi pas, permettre à Nicolas Gioacchini de retrouver l'axe de l'attaque avec un système peut-être évolutif, puisqu'on le rappelle, Johan Cour est plutôt un milieu de terrain de côté pour du coup. Est-ce que ça peut être un bon plan pour Gioacchini, ça, de voir l'arrivée de Johan Cour selon vous, Mathieu?
Bah oui, dans une perspective, si vous jouez à 2 attaquants, si le coach décide d'appliquer ce système-là, forcément, donc on peut imaginer que Johan Cour prendra le poste de milieu excentré droit, et donc il y aura une place dans l'axe, mais bon, après, il faut voir s'il y a un attaquant qui arrive, il faut voir s'il y a un attaquant qui part, enfin c'est pareil, à ce niveau-là, c'est comme pour l'AEC, au niveau du mercato, on va attendre le 6 octobre pour voir le visage un petit peu...
Oui, il va s'en passer.
Le visage définitif de l'équipe. Mais voilà, c'est vrai que bon, mais le coach le dit hein, que Nicolas est plus performant devant, mais pour les besoins de l'équipe, il a besoin de mettre quelqu'un à droite et il le fait. Et voilà, et comme dit le coach, hein, faut mieux jouer même à un poste où vous n'êtes peut-être pas le plus performant que rester sur le banc.
C'est vrai, c'est pas faux, exactement. En tout cas, ça lui donne raison à Pascal Duprat en ce moment, puisqu'on le rappelle, les Malherbistes comptent 7 points en 3 matchs et reçoivent Chambly. Ce sera samedi à 19h, évidemment à suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest.com et sur toutes les applis Tendance Ouest. Deuxième sujet concernant le Stade Malherbe, et là, attention, il va se recoiffer, il va se peigner la barbe et il est prêt à nous en parler. Le rachat du club, Florent Turpin de France 3. Vous avez suivi tout cet épisode, évidemment, depuis des mois, comme nous tous, de rachat du Stade Malherbe de Caen. Hier soir, le conseil municipal de la ville de Caen a validé ce rachat. D'abord, vous, Florent Turpin, en tant que suiveur, il vous inspire quoi, ce rachat? Vous sentez quelque chose? Vous l'avez dit tout à l'heure, on sent quelque chose se créer autour du club.
Oui, c'est vrai. Tout le monde le dit. Moi, je prépare pour ce week-end un reportage autour de Pierre-Antoine Capeton. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, les associations de supporters, les associations des anciens, les petits actionnaires qui ont vendu leur part, tout le monde va dans le sens de Pierre-Antoine Capeton. Tout le monde trouve que c'est cet attelage Capeton-Octry, c'est la solution pour le Stade Malherbe. Est-ce que c'est la solution pour la saison à venir et les deux ou trois prochaines? Est-ce que c'est du long terme? On ne sait pas, mais pour l'instant, tout le monde semble favorable à ce rachat.
Alors, tout le monde semble favorable, mais Pierre-Antoine Capeton, chez chacun de nos médias, messieurs, parce que vous, pour vous, Florent Turpin, ce sera dans quelques jours, mais pour vous, Mathieu Billot, c'est déjà sorti, et on le rappelle dans le numéro du Foot Normand de ce mois-ci, en vente dans les kiosques, l'interview complète de Pierre-Antoine Capeton. Vous avez pu également, chers auditeurs, la découvrir sur tendanceouest.com et à l'antenne de Tendance Ouest, cette interview du nouvel homme fort du Stade Malherbe de Caen. Moi, j'ai une question. Pourquoi, Mathieu Billot, incite-t-on dans les discours de Pierre-Antoine Capeton à la patience? Il y a un truc qui m'échappe.
Bah, déjà parce que, un, ça reste du sport et du football et que vous ne maîtrisez jamais tout. Voilà. Et puis, peut-être qu'il a les leçons de ses prédécesseurs. C'est ça, pour la première chose. Voilà. Et puis, parce que ce n'est pas parce que vous avez gagné trois matchs, enfin deux et un nul, qu'il faut s'enflammer et penser que Malherbe est déjà de retour en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de boulot, hein, il l'a répété à nombreuses reprises, sur le terrain et en dehors, il y a de nombreuses étapes. Donc c'est aléatoire. J'ai du mal à l'imaginer, Pierre-Antoine Capeton, arriver et dire c'est la Ligue 1 tout de suite, maintenant, à la fin de la saison, sinon c'est un échec. En tout cas, ce n'est pas comme ça, visiblement, qu'il a fonctionné depuis le début de ce processus de rachat. Il faut mieux être prudent, parce que qu'est-ce qu'on va dire si quand s'incline samedi contre Chambly? Faut laisser le temps au temps. C'est même pas terminé le processus de rachat, donc on peut un petit peu être patient. Enfin, c'est un mot qu'on répète beaucoup depuis un certain temps qui irrite les supporters, mais voilà, faut surtout pas s'enflammer. C'est pas parce que vous avez deux résultats qu'il faut croire tout de suite que vous allez remonter en Ligue 1 l'année prochaine.
Florent Turpin, la patience n'empêche néanmoins pas l'ambition. Pierre-Antoine Capeton, il voudrait bien remonter quand même assez vite dans cette Ligue 1, il ne faut pas se tromper non plus.
Bien sûr, il ne l'a pas dit, ou peut-être à vous, dans les colonnes
il a commencé chez nous, effectivement, à évoquer 3 ans pour remonter en Ligue 1. Ça, c'est un fait.
C'est vrai que c'est compliqué, hein, pour lui de se dévoiler au grand jour ou de donner toutes ses ambitions dès maintenant. En plus, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa communication. Et du coup, il reste bien dans son rôle. Et je pense qu'il a raison, quoi. C'est vrai que son arrivée et celle d'Octry suscitent beaucoup d'espoir, mais aussi un peu de méfiance. Tout le monde le dit. Hein. C'est pas anodin qu'un fonds d'investissement multimilliardaire américain arrive dans un club de Ligue 2. Voilà, il y a un peu de méfiance. On l'a vu hier soir en conseil municipal de Caen. C'était la dernière étape pour valider le rachat du club. Ça a été évidemment validé sans problème par le conseil municipal, mais il y a l'opposition qui s'est abstenue. C'est-à-dire que les élus de l'opposition, plutôt la gauche à Caen, a quand même fait ressentir qu'il y avait un peu de... Voilà, c'est plutôt un conflit philosophique. Ils se sont un peu interrogés sur l'arrivée d'un fonds d'investissement américain à Caen. Et voilà,
C'est une opposition systématique et politique, ou est-ce que c'est une opposition vraiment d'idées?
Non, je pense que c'était l'opposition municipale a voulu marquer le coup. C'est un conflit philosophique. Est-ce que, après des années de gouvernance normande avec des parts égales entre chaque actionnaire normand, on passe dans une autre dimension avec un actionnaire majoritaire qui vient pas de la région? Il y a évidemment un peu de méfiance et un conflit philosophique, quoi. Ça, c'est sûr.
Vous le comprenez, Mathieu Billot, cette méfiance qu'il peut y avoir, et peut-être pas seulement à l'intérieur de l'opposition du conseil municipal de Caen, peut-être aussi en tribune Borély, par exemple?
Alors, pour le conseil municipal de Caen, je ne m'exprimerai pas, je ne le connais pas, je ne sais pas s'ils ont vraiment voté contre parce qu'ils s'interrogent, ou juste parce qu'il faut voter contre quand on est dans l'opposition, donc là, je ne sais pas. Après, la méfiance, en France, les fonds d'investissement étrangers, ils n'ont pas bonne presse. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme tout le monde. On va attendre de voir ce qu'ils vont faire avant de les juger. On va pas dire que c'est bien, on va pas dire que c'est pas bien. On va les laisser bosser tranquillement. On va voir ce qu'ils vont faire. Toujours est-il que s'ils n'avaient pas été là, c'est pas le même discours qu'on a aujourd'hui. C'est pas le même débat. Donc déjà, on peut leur accorder ça. Faut dire, sans leur argent, il y aura peut-être pas de club professionnel aujourd'hui à Caen.
C'est la vérité.
Ou disent
c'est ce qu'on dit, exactement.
Donc, voilà, donc après, déjà, on peut déjà leur accorder ça. C'est déjà pas mal. Alors peut-être que pour eux, entre 15 et 20 millions, ça ne représente pas grand-chose parce qu'ils pèsent, ils pèsent des dizaines de milliards. Enfin, faut être capable de les mettre quand même. Il n'y avait pas grand monde qui était visiblement dans la région. Personne n'était capable de les mettre. Donc déjà, il faut déjà leur accorder ça. Et puis on va les laisser travailler tranquillement et puis voir ce que ça va donner cette saison et dans les saisons futures.
Et dans les heures à venir, on va voir ce que ça donne du côté de Caen-Chambly. Un mot sur cette rencontre, messieurs. Le Caen-Chambly de l'année dernière était d'un ennui absolu avec un match nul de bout en bout et en score final du côté du stade Michel Dornano. Aurélien Renaud, ça va se jouer sur quoi ce Caen-Chambly samedi soir ?
Bah, ça va se jouer sur, j'espère, les dynamiques entre les deux formations. On a une équipe de Caen, on vient de le dire, qui marche un petit peu sur l'eau, même si tout n'est pas parfait. Il y a quand même beaucoup de signaux verts du point de vue collectif. Et il y a cette équipe de Chambly qui a perdu un peu de sa superbe, qui n'a plus vraiment l'énergie de la saison passée, où je le disais déjà en début d'émission, ils avaient enchaîné 6 matchs sans prendre de but. Pour une équipe qui arrivait en Ligue 2 pour la première fois, c'était quand même assez incroyable. Ils étaient très, très difficiles à bouger.
La fameuse deuxième saison, la saison de confirmation, elle va être difficile pour Rodez. Vous pensez qu'elle va être difficile pour Chambly aussi ?
Je pense malheureusement qu'elle va être effectivement difficile, difficile pour Chambly. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, je lisais les dernières réactions de Bruno Luzy, l'entraîneur, qui a mis un petit taquet à certains de ses joueurs, notamment ses remplaçants, parmi lesquels d'ailleurs un certain Lorenzo Calegari qu'on a vu du côté de l'USA Branche, où il a menacé clairement ses remplaçants de les renvoyer en réserve parce qu'ils n'apportent pas assez. Et malheureusement, si on regarde le scénario de la semaine dernière, enfin du week-end passé contre Grenoble, on a une équipe de Chambly qui est cohérente dans son début de match et qui s'écroule et qui laisse Grenoble les renverser dans les 20 dernières minutes. On a un sentiment dans cette équipe effectivement de Chambly que l'énergie de la montée est derrière eux, que le recrutement a été... on va dire gérer, mais un petit peu avec, voilà, avec des petits bouts de ficelle. On essaie voilà, de tenter des paris. Il y a des avranchinés qui sont là. Alors, ça fait beaucoup d'anciens avranchinés, d'ailleurs, dans cette équipe, si on rajoute Maxence Derrien, Bradley Danger. Ce sont des bons joueurs, mais pour la Ligue 2, ça me semble un petit peu juste quand même pour apporter la réelle plus-value dont ont besoin les Camblysiens. Et je pense sincèrement, alors même si je ne suis pas un expert en pronostic et ça, je peux vous le confirmer, mais je pense quand même que le Stade Malherbe a largement les moyens de s'imposer contre cette équipe en ce moment, en ce milieu de mois de septembre.
Allez, on va faire pas des pronos, mais on va faire en tout cas pour terminer cette partie Malherbe, avant d'aller voir la partie foot fédérale, on va faire comme chaque semaine maintenant, vous en avez l'habitude, les tops et les flops du match à Rodez. Et je commence avec vous, Mathieu Billot du Foot Normand. Allez, avez-vous un flop sur ce match à Rodez du côté malherbiste ?
Allez, histoire d'en dire un, mais c'est vraiment histoire d'en dire un. On peut dire après le but, la dernière demi-heure de la première mi-temps où l'équipe a peut-être un peu trop reculé et un peu trop laissé le ballon à Rodez à ce moment-là.
Exact.
C'était les deux occasions. Et ce qu'ils ont d'ailleurs plutôt bien corrigé au retour des vestiaires.
Et pour vous, Aurélien Renaud, un flop du côté du Stade Malherbe à Rodez ?
Oh, c'est difficile de trouver un flop sur ce match-là. En toute honnêteté, je vais faire joker sur celui-ci quand on a une victoire 3-0 à l'extérieur comme ça.
J'ai deux jokers pour la première émission. Vous n'en avez plus du tout jusqu'à la fin.
J'en ai plus du tout. Non, je vais pas oser donner.
Allez, le top pour vous, Mathieu Billot du Foot Normand.
Et moi, je veux dire Anthony Gonzalez, que je trouve.
Et pour vous, Aurélien Renaud.
Moi, je vais dire Prince Onyangé, que je trouve vraiment intéressant. Et j'espère vraiment que le Stade Malherbe, avec un Prince Onyangé investi comme ça, va pouvoir le conserver, même si ce n'est pas gagné, on le sait.
Évidemment que ce ne sera pas gagné. Mercato, on vous le rappelle, jusqu'au 5 octobre pour tous les clubs professionnels. Et donc, pour le Stade Malherbe de Caen, notez dans les dernières nouvelles l'arrivée de Johan Cour. On en a parlé un tout petit peu du nouveau milieu de terrain malherbiste. Et pour cause, ce n'est pas encore officialisé, quand bien même il se soit entraîné sous les couleurs malherbistes. Et les discussions qui sont toujours en cours pour Alexandre Mendy du côté de Bordeaux, affaire au pluriel à suivre. Et il va y avoir encore forcément des mouvement dans cet effectif malherbiste, autant dans le sens des arrivées que des départs. Dernière partie de ce club foot, le foot fédéral avec, messieurs, Avranches. Qu'est-ce que c'est que cette irrégularité ? Alors Aurélien Renaud, je me tourne vers vous parce que vous commentez Avranches pour FFF TV. C'est les montagnes russes là-bas.
Ouais, c'est les montagnes russes. Alors il y a pas mal de choses à prendre en compte hein, dans ce championnat national. Déjà, c'est un vrai bazar dans le point de vue du calendrier. Beaucoup de matchs reportés. Alors on connaît les dates, mais il va falloir attendre fin septembre, fin octobre pour avoir une actualisation concrète des matchs. en espérant effectivement qu'il n'y ait pas d'autres reports. Déjà, c'est un premier point. Pour ce qui concerne l'US Avalanche, il y a une préparation tronquée par le coronavirus. On essaie de ne pas se cacher derrière ça du côté de Fred Rekulo et de son staff, mais on se doute qu'à un moment donné, ça va avoir des répercussions sur le rendement de la formation avranchinaise. Et là, le problème qu'on constate, parce qu'il y a eu 4 journées, 3 matchs à domicile et 1 à l'extérieur, c'est qu'à domicile, la recette avranchinaise qui consiste à jouer, à créer du jeu, à vouloir proposer quelque chose, en ce moment, avec la jeunesse de l'équipe, elle est facilement contrable par les dispositions plus défensives des adversaires. On l'a vu sur la dernière rencontre contre Bastia Borgo vendredi. On a une équipe bastiaise qui est venue avec une défense très solide, prête à placer des contres. Et c'est vrai que pour l'instant, cette équipe d'Avranches se montre un petit peu trop naïve face aux attaques adverses. Elle manque un petit peu d'efficacité. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on a abordé avec Fred Rekulo en fin de partie. Il y a un petit peu de, on va dire, un peu de défiance vis-à-vis de la position et la posture que prennent les adversaires à Fenouillère. Et c'est une posture que Avranches, plus défensive et plus directe, a pris à Laval. Et avec, on le sait, une victoire. Donc en fait, est-ce que à trop jouer, cette équipe d'Avranches peut se retrouver piégée? Est-ce qu'elle ne devrait pas parfois être un petit peu plus directe? C'est une question qu'on peut se poser, mais ça peut expliquer en tout cas ce début en Dancy, même s'il y a, on le rappelle, 6 points en 4 matchs. C'est quand même pas mauvais pour une formation qui a vu sa préparation vraiment tronquée.
Avranches et QRM dans cette nationale, un grand ville et le FC Rouen. On en parlera la semaine prochaine de ces équipes en National 2 et on va bondir à la National 3 avec vous, Mathieu Billot. Dieppe est en tête de National 3 pour l'heure. Dieppe avait connu une saison extrêmement compliquée la saison dernière avec vraiment des résultats comme Avranches cette saison en Dancy, une équipe jeune, très jeune. Est-ce que c'est la bonne pour Dieppe cette année pour vous, Mathieu?
C'est pareil, après 3 jours.
Ah bah si, tout de suite, vous vous mouillez. Vous ne vous mouillez pas assez, monsieur.
Je ne me mouillerai pas. Je préférerais quand même que l'année dernière, Dieppe a fait un beau petit parcours en Coupe de France quand même. Donc,
exact.
La saison, elle était quand même...
En championnat, plutôt... non mais en championnat, c'était plus compliqué. Oui, oui. Puis l'équipe était quoi, jeune. Il y avait eu un gros pari de la part de ce club-là avec beaucoup de jeunes intégrés. Est-ce que ça paye un an de différence maintenant?
Oui, puis c'est une équipe qui a perdu 2-3 joueurs, je crois, mais qui a aussi recruté de manière intelligente, notamment devant. Avec des anciens du FC Rouen. Non, mais voilà, mais Dieppe, c'est un club bien structuré. Je pense qu'il y a un très bon coach à sa tête avec Guillaume Gonel. Donc voilà, c'est un candidat en tout cas au top 5 de N3. Après 3 journées, qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils seront bien placés. Encore une fois, le championnat est je pense va être assez homogène. Je pense qu'Aurélien peut en dire un mot vu qu'il a fait.
Et Aurélien va en dire un mot aussi.
Voilà. Après, je ne sais pas si Aurélien, parce que ouais. Je pense que voilà, le championnat est très homogène. Cette année, ça va être encore plus vrai que d'habitude. Donc, ce serait extrêmement prématuré de dire qui c'est qui va finir premier.
Alors, ça ne se mouille pas peut-être. Allez-vous vous mouiller, Aurélien Renaud, vous, sur la lutte au maintien? On a l'impression là que l'homogénéité du haut de tableau n'est pas la même en bas de tableau. Il y a des équipes qui sont déjà dans la difficulté.
Ouais, il y a des équipes, bon, on va les citer, hein, la réserve de QRM et le Bayeux FC, même si c'était un petit peu attendu pour Bayeux, avec, on le rappelle, une montée qui n'était pas forcément prévue. Ils ont bénéficié quand même de l'arrêt du championnat, même si effectivement, s'ils sont premiers au moment où le championnat s'arrête avec le virus, c'est qu'ils l'ont mérité quelque part. Mais non, ce qu'on peut relever, c'est vraiment l'homogénéité. Il en parlait il y a quelques instants, Mathieu, c'est que sur les 14 formations du groupe, il y en a déjà 12 qui ont gagné au moins un match, donc ça se débloque assez rapidement. Alors, il y a eu des reports, mais effectivement, il y a deux formations qui sont à zéro. Malheureusement, c'est Bayeux et la réserve de QRM. Dans ce genre de championnat, si on n'enclenche pas rapidement la première vitesse, on peut rapidement se retrouver lâché. Malheureusement, après, pour remonter, il faut engager des séries. Ce qui semble pour l'instant hors de portée pour Bayeux. Alors, j'ai moins vu les matchs de QRM, de la réserve de QRM pour l'instant. Donc pour ce championnat, ouais, ça va être très très homogène. Et pour répondre à votre question de base, est-ce que Dieppe peut le faire? Si on peut résumer leurs 3 premières journées, il y a pas mal de réussite contre Vire parce que Vire s'aborde un peu son match. Il y a beaucoup de courage pour le match nul récolté à Alençon. Et par contre, c'est très très convaincant contre Avranches. Donc il y a une montée en flèche côté Dieppois qui est intéressante. Alors pourquoi pas voir Guillaume Gonel et ses hommes rester assez haut une bonne partie de la saison, pourquoi pas.
Eh bien, c'est ce que l'on verra justement avec ce Dieppe FC. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir alimenté de vos analyses ce club foot de cette journée si spéciale. qui s'annonce du mardi 8 septembre. Pourquoi spécial? Parce que c'est le tirage de la Coupe de France et on va en parler tout au long de cette saison de cette Coupe de France sur l'antenne de Tendance Ouest. Tirage du troisième tour, vous allez pouvoir le découvrir dès la fin d'après-midi sur tendanceouest.com. Match à suivre samedi soir à partir de 19h sur tendanceouest.com avec vous messieurs. On va bien s'amuser à commenter et ce Chambly et ce Le Havre-Niort avec tous les résultats justement de la Coupe de France et des championnats fédéraux. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de Club Foot. Salut.
Podcast by Tendance Ouest.